précarité, les vibrations de la communauté. CKUT FM 90.3.
The following is a previously broadcast program.
Sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille et comme d'habitude, pour commencer, nous avons avec nous Ramon Vitesse avec sa chronique BD. Bon matin.
Bon matin, Tamara. Alors, ce matin, j'ai un roman graphique et un livre de recettes et un essai. Alors, on va aller dans toutes les directions et j'essaie souvent de trouver un fil conducteur dans mes propositions. Aujourd'hui, on pourrait quasiment faire un concours parmi les auditrices et auditeurs si vous parvenez à en trouver un. Voilà. Alors, la première proposition, qui est un roman graphique de facture contemporaine, c'est un auteur qu'on devrait, je l'espère ardemment, avoir comme invité pour une interview au lendemain de la veille. Alors, il s'agit du BDiste Christian Quesnel, qui est très multimédia et qui a une approche définitivement contemporaine et qui remet dans le fond ce qui met le feu aux poudres des procédés même du langage qu'est la bande dessinée. On en a parlé récemment de Christian Quesnel pour un collectif qui s'intitule « Vous avez détruit la beauté du monde ». C'était sous-titré « Le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 ». C'est un livre qui a été publié chez l'éditeur Noël Graphique et c'était un livre déjà qui était extrêmement déstabilisant puisqu'on avait un collectif composé de trois chercheurs, chercheuses en criminologie, Perrault, Sellard et Corriveau, qui sont venus à la conclusion que la meilleure façon de partager leurs recherches au grand public était peut-être un médium comme la bande dessinée. Et c'est là qu'ils avaient rencontré Christian Quesnel. Et le défi de ce livre-là que Christian Quesnel avait viré comme une crêpe dans un poêlon, c'était de pas s'embourber d'une certaine façon dans un espèce de voyeurisme par rapport à la mort que quelqu'un se donnerait. Alors voilà, il s'en était tiré vachement bien et j'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé un livre que Christian Quesnel a publié en 2019, donc il les a publiés quasiment coup sur coup les deux. Et ce livre-là que je vous présente aujourd'hui s'appelle « Félix Leclerc ». Et c'est sous-titré « L'Alouette en liberté ». C'est publié aux Éditions de l'Homme et l'auteur unique cette fois-ci est Christian Quesnel. Et dans ce livre, on peut dire que Christian Quesnel donne la pleine, non seulement mesure, mais la pleine démesure de son art, de son approche contemporaine de la bande dessinée. Ce livre-là, à prime abord, quand on l'ouvre, on peut avoir l'impression d'être devant un livre jeunesse, un album jeunesse illustré avec ses grandes pages doubles et avec des dessins colorés et tout et tout. Quand on y porte la moindre attention, on s'aperçoit qu'il y a des bulles, qu'il y a des encadrés ici, et que le dessin est absolument fascinant avec des personnages dont les têtes sont traversées, qui par des animaux, qui par des instruments de musique, ou encore même des bateaux ou des oiseaux. C'est une façon de dessiner, une façon de décupler d'une certaine façon l'essence et le sens graphique de son dessin. Christian Quesnel, j'ai fait plusieurs recherches sur lui parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce serait vraiment bien qu'on arrive à le capturer pour une interview à CKUT au lendemain de la veille. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'il a fait des études en bande dessinée, le seul programme de la sorte qui se donne à l'Université du Québec en Outaouais. Mieux, maintenant, il enseigne la bande dessinée aussi et il est en train de terminer une maîtrise en art contemporain, en pratique. Alors, l'objet de son mémoire de maîtrise, c'était carrément de réaliser une bande dessinée, je crois, de 20 ou 30 pages. Christian Quesnel a fait un livre aussi sur Ludwig, le fameux musicien classique, a fait un livre aussi sur un fait divers d'une petite fille morte dans des circonstances étranges. Et lui en a fait une fiction étrange avec un loup-garou, alors donc inspiré du folklore québécois. Essentiellement, Christian Quesnel a comme matériau vif l'histoire, des personnages marquants, peut-être aussi l'aspect documentaire depuis 1763 aussi pour le suicide. Dans le livre Félix, dans le livre Félix Leclerc, c'est une évidence qu'on va parler d'un personnage emblématique au Québec, un personnage extrêmement inspirant avec ses chansons, sa poésie. Ce que nous offre Christian Quesnel, donc, c'est à travers une série de double pages, à peu près 25 ou 30 chansons parmi ce qui est plus marquante ou parfois méconnue de Félix Leclerc, de façon à nous le faire mieux connaître. Lui-même s'est servi de son travail pour en découvrir certaines ramifications. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Félix Leclerc a d'abord été découvert en France avant de connaître un succès national et retentissant au Québec. Il a même influencé plusieurs grands noms de la chanson française, même par les années qu'il a passées dans l'Hexagone. Alors, c'est quand même pas piqué de verre, parce que c'est ça, Félix Leclerc a aussi influencé des gens comme Gilles Vigneault, Robert Charlebois. Donc, c'était quand même quelque chose qui arrive aussi à influencer des Français qui, généralement, voient de haut les folkloreux québécois. Entre autres, Léo Ferré, Georges Brassens et Jacques Brel, tous des gens désormais très célèbres dans l'histoire de la chanson française, se réclamaient notamment de l'art de Félix Leclerc, de ses images, de ses métaphores extrêmement fortes. Par exemple, ici, je n'ai pas vu toutes les merveilles du monde, mais j'ai sûrement vu la plus belle et ses montagnes. Où que je sois sur terre, je l'emporte dans ma guitare. Alors voilà, les dessins, donc, comme je le disais, ça relève de la peinture, des taches d'encre, des compositions inusitées, surprenantes et renversantes, qui amènent donc une espèce de dialogue avec la poésie même des textes de Félix Leclerc. Entre autres, on va apprendre dans ce livre, si on ne le savait déjà, que Félix Leclerc a eu une amitié avec un Jamaïcain émigré au Canada et qui, ce Jamaïcain lui avait fait découvrir le ska et ça lui avait inspiré aussi un texte puisque ce type était graveur, c'est-à-dire donc qui transportait les billes de bois sur les flots déchaînés. Félix Leclerc, donc, L'Alouette en liberté aux éditions de l'Homme par Christian Quesnel. Quesnel s'écrivant Q-U-E-S-N-E-L. Donc, un auteur redoutable qui, d'ailleurs, a gagné un prix en 2019 du Calque, une bourse qui a été remise pour la première fois à un BDiste sur 2 ans, quelque chose comme 50 000 $ et il doit donc produire une bande dessinée qui fera autour de 300 pages et son projet concerne H.P. Lovecraft, donc une histoire d'horreur et de fantastique. Alors voilà, ce sera certainement avec autant de plaisir qu'on la lira quand elle va sortir. Je vous avais promis un livre de recettes. Ce n'est pas un livre de recettes conventionnel. Si on cherche un fil conducteur dans les propositions de ce matin ou le lendemain de la veille, c'est peut-être justement le non conventionnel. Ce livre-là s'intitule « Cuisiner sans recette ». C'est sous-titré « Guide de résilience alimentaire ». L'autrice est Véronique Bouchard, qui est aussi agricultrice, et elle publie ce livre chez Éco-Société. Les illustrations sont de Mélika Bazin, des illustrations pas nécessairement fantaisistes, mais très bande dessinée jeunesse. Les aliments virevoltent ici, virevoltent là, et se transforment en un plat. Alors, pourquoi ce titre « Cuisiner sans recette » C'est que Véronique Bouchard propose un autre angle, une autre mise en cohérence d'une part de notre créativité, mais de connaissances de base aussi au niveau de l'alimentation, de façon à pouvoir se faire mieux confiance, d'une part, pour créer à partir des aliments qu'on a déjà, au lieu de partir de livres très léchés sur le plan photographique, souvent importés, qui nous proposent des recettes pour lesquelles on est obligé d'acheter des aliments importés qui coûtent une fortune et qui ont des effets désastreux sur l'environnement. Donc, c'est de cuisiner beaucoup plus avec des aliments locaux, des aliments de saison, et aussi en développant des habiletés de base, comme j'en donne un exemple, elle nous parle à un moment donné des tartes. Les tartes sucrées, les tartes salées et d'autres tartes. Alors voilà, elle nous donne la base et à partir de là, à nous d'improviser et de mettre notre touche. Ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que on se sent définitivement comme une chef ou un chef de cuisine et le résultat, le goût de tout ça est d'autant plus à l'avenant que c'est nous qui avons mis la main à la pâte, mais aussi l'imaginaire à la pâte. Un très beau livre, donc, qui amène aussi un aspect philosophique, une prise de position par rapport à l'alimentation, par rapport aussi à nos agriculteurs de famille, puisque Véronique Bouchard, avec sa petite exploitation agricole, nourrit plusieurs familles sur une base hebdomadaire. Donc, « Cuisiner sans recette », guide de résilience alimentaire, publié chez Éco-Société par Véronique Bouchard, un vrai petit bijou, donc, d'anti-recettes, ou en tout cas, de reprise à un peu de nos chaudrons et de nos cuillères. Le troisième et dernier livre en termes de proposition est un livre peut-être un peu choquant. Ça s'appelle « L'aventure du caca ». Oui, rien de moins. C'est c'est une tendance, je dirais, dans les essais, d'apporter parfois des sujets qui sont un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'on souhaite attirer le lecteur, mais en tout cas, c'est quand même ici un livre, au contraire de son titre, très sérieux. Le livre « L'aventure du caca » publié chez les éditions Somme Toute par l'auteur Scott McKay est un sous-titre donc qui est très sérieux. « Égout et gestion des eaux ». Alors, au-delà du bol de toilette qu'on trouve de profil sur la page couverture, c'est un livre quand même qui se veut une réflexion donc sur la gestion des eaux. Scott McKay, d'ailleurs, c'est pas un journaliste à la base. C'est un spécialiste de l'eau, des sciences de l'environnement et depuis plus de 25 ans, donc, qui œuvre dans les milieux gouvernementaux, des affaires et de la consultation. Il a été même politicien. Il a été conseiller municipal à Montréal et il a été chef d'un parti politique provincial. Je me souviens pas lequel, par contre. Ça vaudrait peut-être la peine de faire des recherches à cet égard-là. Donc, il a travaillé beaucoup sur des enjeux stratégiques et technologiques durables par rapport à l'eau. Ici, ce qui nous exprime, finalement, c'est quoi au juste les excréments? C'est quoi la composition? Il s'attaque aussi à certains mythes, comme les fameux crocodiles ou serpents qu'on pourrait retrouver dans nos égouts. Ensuite de ça, bien sûr, qui questionne, ce qu'on se doute que c'est bien la même chose, c'est que l'eau qu'on retrouve dans notre toilette, c'est bel et bien la même que celle qui coule dans nos robinets. Donc, il y a quand même, même si c'est pas un polémiste de la première heure, notre Scott McKay, il remet quand même que c'est impossible que partout dans le monde, on aurait le même type d'usage de l'eau. Impossible. Donc, entre autres, il nous amène à comprendre que dans l'histoire, la gestion des eaux, on a souvent pensé que pour régler le problème de la pollution, l'affaire la plus simple comme réaction, c'était tout simplement de diluer la pollution. Donc, vraiment un calcul simpliste, pour pas dire crétin. Alors voilà, c'est un livre donc qui est assez intéressant sur un sujet qui se place bien dans une conversation de table. Je suis déjà un peu ouvert. Donc, l'aventure du caca, oui, il y a un certain humour dans ce livre, mais surtout, il y a des questions qui sont assez fondamentales sur le plan environnemental. Donc, de Scott McKay, l'aventure du caca, publié chez Somme Toute. Pour s'achever, je propose, je suis retourné dans un disque paru il y a longue date, en 1997. Mes garçons diraient que ça fait... c'est de jadis, mais en tout cas. Ça s'appelle Lily Fatale. L'album s'intitule CK8296. Et cet album-là, à ma connaissance, n'a pas eu vraiment de rejeton. Il n'y a pas eu d'autres suites. Parmi les amitiés de Lily Fatale, qui était apparemment un trio avec une voix féminine et une multi-instrumentiste, il y avait les Mauvais Quarts d'heure, qui étaient un peu, à l'époque, des gens de Québec, qui étaient un peu les alter-ego des Vulgaires Machins. Donc, on va écouter cette espèce de ska rock avec une touche de punk et de folklore assez spéciale. Le reel de la pauvreté sur CKUT 90.3 FM. Thank you.
Scientifique.
À part Marie Curie, non.
Est-ce que vous pouvez me citer une femme qui travaille en technologie?
Non, malheureusement, non, je pense pas, non.
Bonjour, est-ce que vous connaissez une femme scientifique?
Non.
C'est pas étonnant. Les femmes en technologie, on n'en connaît pas vraiment. Même si elles représentent 20% de l'ensemble des personnes de l'industrie. Et en sciences, c'est pareil. Après les études, les femmes ne représentent que 20% des scientifiques. Mais celles qui œuvrent dans ce milieu sont passionnées. Elles foncent, elles doutent, elles cherchent. Et dans ce balado, elles se livrent à nous. Parfois à demi-mot, toujours à cœur ouvert. Ici Karine Mona, vous écoutez 20%.
J'ai toujours adoré la nature. C'est peut-être parce que mon père nous amenait souvent promener dans les bois. Il faisait semblant de faire la chasse, mais il tirait jamais sur rien. Donc, j'ai vraiment développé cette passion pour la nature. Tout au cours de l'été, je jardine aussi beaucoup. J'ai un grand jardin avec des arbres et des fleurs. Alors, ça me passionne énormément. Je m'appelle Dominique Charron et je suis médecin vétérinaire et épidémiologiste.
Dominique Charron, vous êtes vice-présidente des programmes et partenariats au CRDI, Centre de recherche en développement international à Ottawa. Alors Dominique, racontez-nous votre mission au sein du CRDI, cette société d'État canadienne. Qu'est-ce que vous faites?
À la mission du CRDI, c'est une mission passionnante et j'ai l'honneur et le plaisir de diriger toute la programmation du centre. Et la programmation du centre met en valeur et met les ressources dans les mains des chercheurs du Sud pour répondre aux problèmes et aux défis de développement durable dans les pays du Sud.
Et alors, est-ce que vous auriez des exemples de projets de recherche?
Donc, la programmation du CRDI est quand même assez large, je dirais, en termes de thématiques. On travaille à renforcer la résilience au changement climatique. On travaille aussi à autonomiser les femmes, tant au niveau économique qu'au niveau vie de femme, vie de famille. On renforce aussi les innovations pour l'agriculture, pour la santé du bétail, des animaux. On finance aussi des recherches sur les applications des technologies perturbatrices comme l'intelligence artificielle et les technologies mobiles. Et on appuie aussi beaucoup de recherches en sciences sociales, en politique, pour développer des meilleures politiques qui sont plus inclusives pour que personne ne soit laissé de côté par le développement.
Et alors concrètement, est-ce que ce sont des financements ou est-ce qu'il y a aussi des collaborations entre chercheurs du Canada et des chercheurs du Sud?
Le financement du CRDI vient et relève du portefeuille de l'aide internationale du Canada. Donc notre public clé, nos chercheurs vraiment qu'on vise avec notre financement sont les chercheurs du Sud, mais il nous arrive à appuyer des collaborations entre les chercheurs du Sud et les chercheurs au Canada. Et ce sont vraiment des très belles collaborations.
Vous disiez en introduction que vous êtes médecin vétérinaire et épidémiologiste. Qu'est-ce qui vous a donné le goût? Qu'est-ce qui vous a attiré pour aller en sciences?
J'ai toujours été passionnée par les animaux. J'adore les animaux. Mon parrain m'a abonné au magazine National Geographic et ça a ouvert vraiment tout un monde pour moi. Toute cette belle diversité animale qui a vraiment éveillé en moi ce désir de vouloir non seulement devenir vétérinaire, je crois que j'avais 8 ans quand je me suis décidée de devenir vétérinaire, mais de vraiment m'intéresser plus aux animaux sauvages et à la biodiversité, à la nature.
Et lors de votre formation, on est dans les années 80 à peu près, et c'est en même temps que l'éveil au développement durable. Vous travaillez alors au Zoo de Toronto, et là, vous vivez un premier moment charnière dans votre carrière. Racontez-nous.
Pendant le cours de médecine vétérinaire, dans la dernière année, on a des stages qu'on peut faire selon nos ambitions de carrière. Je m'orientais vers une carrière en médecine vétérinaire pour les animaux sauvages et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages au zoo de Toronto. Et puis en même temps, c'était en 1987, il y a eu le rapport de la Commission sur le développement durable de Madame Brundtland, qui était la première ministre de la Norvège, et qu'on a commencé à avoir vraiment un discours mondial sur l'importance de réfléchir et de prendre des actions de développement économique qui ne minerait pas à la pérennité de l'environnement et aux services que l'environnement nous fournit, mais aussi un développement juste, équitable pour les pays pauvres. Donc, c'était vraiment pour moi un éveil que non seulement devrions-nous nous concentrer, nous pencher sur les enjeux des espèces menacées d'extinction et des problèmes au niveau des pressions sur la nature, mais que le monde devait réfléchir à une trajectoire de développement qui serait plus équitable et plus pérenne à tous les niveaux, disons, économiques, humains et nature. Et donc, pour moi, c'était ce questionnement que si je voulais vraiment réfléchir à comment aider les animaux qui étaient menacés d'extinction ou qui souffraient de nouvelles maladies, par exemple, que c'était vraiment des enjeux de développement durable, que c'était des enjeux de humains autant que nature, et que j'aurais peut-être besoin aussi de me pencher sur ces questions de développement au-delà de la conservation de la nature.
Je pense que votre directrice au zoo, vous avez donné des conseils en ce sens-là.
Donc, Madame Kay Marin, elle m'a dit, bon, si tu vas devenir vétérinaire dans un zoo, tu as toutes les capacités, mais voilà, on passe beaucoup de temps à prélever les fonds, à faire des plaidoyers pour appuyer le zoo. On passe beaucoup de temps à gérer des problèmes qui sont présents chez ces animaux parce qu'ils sont en captivité, même dans les meilleurs contextes. Donc, il faut être prête à ça. Elle m'a dit, ton intérêt au développement durable, tu as vraiment besoin d'aller voir au-delà de la médecine zoologique et tu reviendras si c'est encore ce qui te passionne. Donc, c'est elle qui m'a encouragée à voyager, à mieux comprendre les enjeux de développement durable et de santé animale dans ces contextes.
Et c'est là que vous avez un deuxième éveil, si je puis dire, en voyageant. Vous faites face à la pauvreté de certaines populations. Et là, ça éveille un nouvel intérêt pour vous qui va guider la suite de votre carrière.
J'ai pu rendre visite à des collègues qui étaient en stage au Thaïlande et en Indonésie et vraiment voir ce lien entre les besoins humains, la pauvreté, les animaux domestiques qui sont très importants comme ressources pour les familles pauvres et la nature qui les entoure mais qui aussi sert de ressources.
Et là maintenant, est-ce qu'en tant que vice-présidente, vous continuez à aller sur le terrain?
J'ai souvent l'occasion de pouvoir aller sur le terrain pour mieux comprendre comment la recherche peut avoir un impact très positif sur les changements qu'il faut faire pour avoir un monde plus durable, plus pérenne, plus inclusif.
Percevoir des progrès à notre échelle humaine, à notre échelle de temps, des fois, c'est pas vraiment palpable. Comment vous le vivez?
Il est vrai que la recherche prend du temps et que on ne voit pas toujours immédiatement les incidences des recherches. Sauf que quand on travaille sur des recherches pour le développement, c'est vraiment épatant et ça remet vraiment l'espoir qu'on peut arriver à construire un monde meilleur et que la science a un rôle clé.
Et qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce travail?
Ce qui me fascine réellement le plus, c'est l'engouement, l'intérêt, l'enthousiasme qu'ont les chercheurs du Sud, les chercheurs avec qui on travaille, pour mettre en valeur la science, pour amener un changement dans leur pays. C'est très beau de voir et ça remet aussi l'espoir qu'on peut ensemble construire un monde meilleur.
Mais vous voulez dire on le voit plus chez eux qu'on le verrait dans les pays du Nord?
Dans mon expérience, oui, on le voit plus. La pauvreté, les inégalités qui sont criantes vraiment et très, très évidentes dans les pays du Sud, les problèmes de l'environnement, que ce soit un environnement qui n'est pas sain ou la destruction de la nature. Donc pour eux, le besoin de trouver des solutions est peut-être plus présent et ça les motive énormément à travailler sur des solutions qui vont pouvoir amener un changement.
Une femme vice-présidente du CRDI, donc Centre de recherche en développement international, ça change quoi?
J'ai insisté qu'en assumant ce poste, que je mettrais l'égalité entre les hommes et les femmes au cœur non seulement de la programmation, mais de notre quotidien au CRDI. Et je continue à mettre de l'avant l'importance de ces enjeux d'égalité entre les sexes et l'inclusion dans notre programmation. Si on ne répond pas et on ne considère pas comment les femmes et les hommes vont vivre une situation de manière différente, quand on développe une solution, qu'elle soit technique ou qu'elle soit plus une solution sociale, on risque d'arriver à côté de la plaque. Donc, il faut vraiment réfléchir à ces différences et les prendre en compte pour que les solutions rencontrent tout aussi bien les besoins des femmes et des hommes.
Est-ce que vous auriez un exemple en tête?
C'est un projet sur comment protéger l'eau potable des inondations qui sont de plus en plus présentes et imprévisibles à cause des changements climatiques dans les montagnes au Maroc. En marge du projet de recherche, ils ont équipé plusieurs ménages avec des ordinateurs et un genre de réseau fermé pour que les femmes qui sont dans cette partie du Maroc assez renfermée, c'est assez conservateur, traditionnel comme population. Donc, les femmes n'ont pas un rôle très public. Et donc, en se réseautant entre elles, entre les villages, elles avaient plus de possibilités de se connaître l'une l'autre. Et au moment de l'inondation, qui a commencé comme des raisons en amont, les femmes des villages en amont ont pu avertir les femmes en aval qu'il y avait une crue qui s'en venait vers eux et de mettre en place les technologies qui avaient été proposées par l'équipe de recherche. Ça démontre à quel point parfois on a des résultats inattendus de recherche parce que ce n'était pas le but du projet de recherche de réseauter nécessairement en termes d'alerte précoce, mais les femmes, en se réseautant, ont pu créer ce genre de système qui sert encore. Et en plus, en se réseautant, elles ont pu ensuite aussi développer des petites activités économiques. Et donc, il y a eu beaucoup de retombées positives pour elles.
Avez-vous déjà réalisé que vous êtes une femme dans un monde d'hommes?
C'est un éveil qui est venu assez tard pour moi. Quand, à l'âge de 8 ans, j'avais décidé de devenir vétérinaire, jamais que je me suis fait dire « Ah non, c'est pas un job pour une fille », jamais j'ai vécu d'obstacles. Tous mes profs, ma famille, mon papa m'ont appuyé à 100%. Jamais ça a été questionné. Par contre, une fois rendu dans le milieu du travail, c'est sûr que en tant que vétérinaire, à ma première job en tant que médecin vétérinaire, puis j'avais des clients qui me disaient « Ah, vous êtes l'infirmière. Quand est-ce que le docteur va venir nous voir? » Ah, oh, je suis bien de valeur, madame, mais je suis le docteur. Donc, je l'ai vécu, mais je ne l'ai jamais vraiment ressenti. Même une fois lancée dans ma carrière de scientifique, j'ai été entourée par des hommes et des femmes qui ont été très encourageants. Je le vois par les histoires et les expériences de mes collègues qui l'ont peut-être ressenti plus que moi. Je le vois et je le ressens dans un genre de contexte à l'échelle de la société où les femmes ont ce fardeau de soins de famille, de soins des parents, de soins des enfants qu'elles relèvent encore et que je relève et que j'assume toujours. Peut-être plus que les hommes. Nous avons au Canada une société qui va dans la bonne direction, même s'il y a encore plusieurs obstacles. Ils sont moins grands, ces obstacles, que les obstacles auxquels font face les femmes dans les pays du Sud.
Et quelles seraient vos recommandations, justement, pour à la fois se sentir bien quand on est en sciences et aussi pour être plus nombreuses à ces différents postes?
On remarque, en Afrique, par exemple, un taux de décrochage énorme des femmes en sciences. Donc, bien qu'elles vont compléter leur bac, elles vont peut-être même procéder à la maîtrise, rendues au doc, et plusieurs femmes ne complètent pas leurs études, et même en complétant leurs études, ne vont pas continuer en sciences avec leur doc. Le taux de décrochage est lié à des attentes sociales que ces femmes vont soit se marier, soit avoir un rôle plus important au niveau du ménage, ou un besoin de gagner leur vie avant qu'elles puissent compléter leurs études. Et donc, on a besoin de s'appuyer l'une l'autre, de se parler, de parler des enjeux de vie de femme en sciences, de se réseauter avec les femmes qui ont plus d'expérience pour appuyer celles qui sont en début de carrière, pour les aider à rester branchées dans leur carrière et de se trouver des postes et de créer les conditions de vie pour que les femmes puissent se reconnaître et s'épanouir et être satisfaite dans des carrières de science pour pas qu'elle se sente vraiment incapable de concilier leur vie privée et leur vie en science. Et ça, ce sont des discussions qu'on doit avoir non seulement entre femmes, mais avec les hommes aussi. Nos conjoints qui doivent nous appuyer chez nous pour qu'on puisse poursuivre nos carrières, et nos collègues et nos patrons qui doivent nous appuyer aussi pour qu'on puisse avoir une carrière tout aussi satisfaisante qu'eux dans un milieu de science.
Donc, développer la communication entre nous pour s'inspirer et puis avoir l'énergie de continuer. Tout à fait. Merci, Dominique. Notre dernière question à 20% qu'on aime bien, c'est si vous aviez été un homme, comment cela aurait été différent?
J'ai eu un enfant pendant que j'étais aux études. Et c'est sûr que si j'avais été un homme, j'aurais eu moins de défis à avoir un bébé en plein milieu d'un doctorat. J'aurais terminé mes études plus rapidement et j'aurais sûrement pu progresser dans ma carrière plus rapidement. Donc même ce fait biologique d'avoir pris un peu de recul des études pour pouvoir soigner mon petit, élever mon petit, ça a sûrement eu un impact. Il m'est arrivé même encore aujourd'hui, mais surtout en début de carrière, de me questionner souvent. Et je me demande si peut-être j'avais été un homme, je me serais questionnée un peu moins et j'aurais eu plus de confiance d'aller de l'avant avec certains choix.
Merci beaucoup, Dominique. Ça sera nos mots de la fin. Et ben, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à 20%.
Merci, Karine. Ça a été un plaisir.
Merci. Merci Dominique pour l'enregistrement de ce complément au sujet de la COVID-19. Est-ce qu'en ce moment au CRDI, vous vous êtes adapté à la crise actuelle du coronavirus?
Au CRDI, nous sommes très, très pris justement à essayer de mobiliser des ressources pour répondre aux besoins des pays du Sud, des chercheurs dans les pays du Sud, soit pour lutter directement contre la pandémie et aussi pour contrer les incidences indirectes de la pandémie, donc les effets économiques au niveau social, les incidences aussi sur les femmes qui sont parmi les personnes les plus touchées par la pandémie.
Pourquoi les femmes sont touchées en particulier?
Les femmes sont responsables des soins dans presque tous les pays, dans presque tous les ménages. Ce sont les femmes qui s'occupent des soins et donc elles sont plus exposées. Elles sont aussi touchées par les impacts indirects parce que les femmes sont les premières à lâcher le boulot pour rester à la maison, pour soigner les gens qui sont malades. Donc, les impacts économiques sont importants. Elles subissent partout dans le monde, ici comme ailleurs, plus de risques de violence. Ces mesures d'isolement dramatiques, les femmes, malheureusement, ne peuvent pas s'échapper à leurs conjoints ou autres membres de leur famille et aux violences qu'elles subissent. Et donc, il y a une hausse de cas de violence. Donc, ce sont des situations très dramatiques qui vivent les femmes. Et donc, leurs besoins sont le sujet de plusieurs des initiatives qu'on met de l'avant.
Quel type d'actions ont été mises en place?
Nos recherches se font vraiment en deux volets. Le premier volet, c'est vraiment la réponse à la pandémie. Donc, comment appuyer en temps réel les besoins des pays du Sud? Donc, ce sont des recherches rapides qui doivent se faire tout de suite. Et donc, comment l'expertise et l'expérience au Canada peut servir, mais aussi comment ces expériences-là, soit en Afrique, au Brésil, en Thaïlande ou en Asie du Sud-Est, pourraient ensuite nous aider au Canada aussi. Le deuxième volet, c'est qu'on dispose aussi de partenariats vraiment très forts. Premièrement, les conseils de recherche du Canada. Nous avons travaillé par le passé sur la maladie Ebola. C'était une très belle expérience sur laquelle on a pu construire cette nouvelle opportunité. Deuxièmement, nous travaillons aussi avec l'Agence de développement international de la Suède. Nous sommes en discussion depuis plusieurs mois pour appuyer des recherches sur l'intelligence artificielle, les applications des nouvelles technologies en Afrique. On a pu mobiliser rapidement un financement pour appuyer le développement de solutions pour le dépistage, pour la modélisation, pour anticiper peut-être les impacts sur les systèmes de santé. Nous savons que quand un gouvernement déploie des ressources pour lutter contre une pandémie, il se peut aussi qu'on retire des ressources d'autres aspects du système de santé. Donc, important de pouvoir anticiper les impacts secondaires de ces décisions-là. Et le dernier partenariat duquel nous sommes très, très fiers, c'est une plateforme que nous avons développée en Afrique avec les conseils subventionnaires nationaux de 15 pays de l'Afrique qui se sont réunis pour augmenter leur capacité d'appuyer des recherches dans leur pays. Pour nous, c'est vraiment un moment brillant de voir l'Afrique prendre son leadership et s'unir pour aller chercher le financement de plusieurs pays pour mobiliser leurs propres chercheurs pour répondre à leurs propres besoins.
Ben, merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté d'enregistrer un complément.
Merci beaucoup, Karine.
C'était 20%, une coproduction du magazine Québec Science et l'ACFAS, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Commission canadienne pour l'UNESCO et L'Oréal Canada. Réalisation, recherche et montage, Karine Mona. Prise de son, Olivier Germain. Musique et mixage, David Lavaisse. Rédaction en chef, Marie-Lambert Chan. Et cet épisode est enregistré dans les studios Prime à Montréal. Et on remercie aussi la coop Bande à part pour leur accueil. Vous aimez 20%? Dites-le nous sur Apple Podcasts. Avec 5 étoiles, c'est encore mieux. Tous les épisodes sont aussi disponibles à l'écoute ou en téléchargement sur SoundCloud et votre application d'écoute de balado préférée.
seen them funny. That kind of honey beside me. She's looking mighty fine. Won't take a ride. Come on over, have a drink or two. Let me rub on your shoulder. I've got a trick for you. You slip away so easily.
scratching it too hard. And I got headaches from screaming too loud. I got so much on my mind, I cannot think straight. To place. Oh, with you, everything falls into place. And I'll go with you everywhere you want me to. 'Cause oh, with you, everything falls into place. Try to put my foot down. Oh, but you take away all the weight. Oh, oh, you take away the weight. Oh, with you, everything falls into place.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Are you a tenant in Montreal? Do you have questions about your rights? Your local housing committee can help. To find the housing committee for your neighborhood or for more resources, go to www.rclalq.qc.ca.
Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748. 1-877-376-3748 pour les appels collectes. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Hi, I'm Amy Goodman. Did you know you can get Democracy Now!'s headlines and stories delivered directly to your inbox every day? Just text Democracy Now!, one word, no space. Text Democracy Now! To 66866 to subscribe to our daily digest, and you'll never miss a story. Once again, Democracy Now!, one word, to 66866. Thanks so much, and stay safe. From New York, this is Democracy Now!
Workers are demanding a voice. We're standing up and we're speaking out for a better life. We're demanding a fair share of the wealth that we help create. We're marching and we're organizing and we're bargaining.
AFL-CIO President Richard Trumka has died of a heart attack at the age of 72. We'll look at how a third-generation coal miner became the most prominent labor leader in the country. Plus, we'll speak to Stephen Donziger, the environmental lawyer who sued Chevron for ecological devastation in the Ecuadorian Amazon. After Chevron was ordered to pay billions, the company went after Donziger personally. He's now been under house arrest for 2 years.
The United States cannot become a country that begins to lock up its human rights lawyers, its environmental advocates, its earth protectors.
Plus, we go to Afghanistan, where the U.S. is ramping up airstrikes as the Taliban tries to seize a number of provincial capitals. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. In California, powerful winds and dry conditions have caused several wildfires to explode in size, including the massive Dixie Fire, now the sixth largest in California history. The fire north of Sacramento almost completely burned downtown Greenville and has consumed an area larger than Los Angeles. Six of the largest Just 10 wildfires in California's history have happened since 2020. Elsewhere in Northern California, officials shut down a hydroelectric power plant at Lake Oroville after the reservoir reached a record low level amidst a searing drought. In Greece, thousands of people have fled their homes on the outskirts of Athens as firefighters from across Europe join crews battling blazes that are threatening the Greek capital. One fire nearly reached the ancient Olympia archaeological site where the Olympic Games were held for over a millennium. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis blamed the fires on climate change.
Unfortunately, the worst is yet to come, and the night ahead seems menacing. We're talking about unprecedented conditions following many days of heat waves, which have transformed the whole country into a powder keg.
Scores of other fires are